La première, que je sais être erronée, et la seconde que je souhaite être libre. La première, c'était dans la première partie. Je me suis dit, mais si on peut aussi raconter l'histoire à la manière des historiens, on peut aussi dire que l'Holocauste n'a pas eu lieu. C'est une réaction erronée.
Oui, pour moi, d'accord,
je le sais. La seconde, et je souhaite que ce soit véridique, parce qu'il nous aurait donné une leçon de tradition dans l'actualité, c'est que tout simplement, vous nous avez raconté l'histoire du consistoire des historiens de France. Et je vous
avoue, seulement,
pas seulement, mais là, je dis. Mais c'est son plus
compliqué. C'est celui de l'Allemagne, avant l'arrivée du
terrorisme. Oui, mais nous sommes par hasard en France. Et je vous remercie vraiment de cette leçon très fine et que je souhaite avoir été comprise dans l'essentiel. Je voudrais simplement, pour ouvrir ma réaction très sympathique à votre exposé très juste, revenir sur un point qui me semble important. Dans la tradition juive, on s'est étonné de la question de savoir pourquoi. Nous n'avons aucun document, texte, témoignage écrit sur l'histoire des Maccabées. En ce qui concerne le canon biblique à proprement parler, il n'y a pas tellement de mystère. Le canon biblique a été clos dans la tradition hébraïque 400 ans avant l'ère actuelle. Bien sûr, comme vous l'avez signalé, les catholiques, les orthodoxes aussi, mais la tradition chrétienne, si l'on peut dire, a été fondée par Rome dans la religion catholique romaine, apostolique, etc. Catholique, apostolique et romaine, j'ai oublié un peu mon catéchisme, a été fondée par Rome. Or, la tradition catholique s'est heurtée à une difficulté du point de vue de la liturgie scripturaire, comme ils disent, très importante. Il y a 400 ans de temps culturel entre la fin du canon biblique hébraïque, la Bible des Hébreux, que nous nommons en hébreu le Tanakh, Torah Nevi'im Ktuvim, et la littérature des évangiles, qui commence donc 400 ans après la destruction du premier temple. Entre la fin de l'ère hébraïque des prophètes hébreux et l'apparition du christianisme, il y a eu tout le temps de la Mishnah, c'est-à-dire tout le temps du judaïsme à proprement parler, qui est héritier de l'hébraïsme. Et vous devinez que je vais parler du livre des Maccabées. En fait, il y a là un schéma que je voudrais essayer d'exprimer de façon très simple, sans aucune polémique, qui est une sorte de falsification de l'histoire culturelle. La tradition chrétienne, originellement catholique, elle se présente comme une bifurcation à partir du temps des Hébreux, une bifurcation évangélique qui serait une sorte de branche parallèle ou divergente du judaïsme. En réalité, il y a eu d'abord le temps des Hébreux, et qui est clos à la destruction du premier temple, 460 ans avant l'ère chrétienne, ensuite le temps des Juifs, du judaïsme, et 400 ans après, au temps de la fin du deuxième temple, du Beit Sheni, une bifurcation entre les Juifs qui ont continué à être fidèles aux Judéens, c'est un terme que vous n'avez pas employé mais que je voudrais restituer, vous avez parlé d'une époque judéenne, qui n'est pas l'époque juive, à proprement parler, et la lignée chrétienne. Que s'est-il passé? Il s'est passé que, au temps où l'Empire romain a été l'empire dominant de la civilisation du monde ambiant, en fait le bassin méditerranéen, un certain nombre de juifs ont fondé le christianisme comme une tentative de judaïser Rome, tentative qui a mené à la chrétienté. Il a fallu 400 ans d'histoire, jusqu'au temps de l'empereur Constantin, pour que la chrétienté se constitue comme tradition religieuse d'origine biblique. Mais revenons un peu en arrière. Le fait qu'il n'y ait pas dans le canon biblique, et vous avez signalé que les protestants ont retrouvé dans leur schisme contre les catholiques et les orthodoxes le canon juif, il n'y a pas de question, en fait, que nous ne trouvions pas dans le canon biblique hébraïque des livres, le livre des Maccabées. parce que le canon hébraïque a été clos avant le temps dont nous parlons, à l'époque du deuxième temps. Et je signale ceci. Vous allez voir pourquoi. Et vous me permettez quelques phrases d'explication. Parce que là, nous avons d'ailleurs très courtoisement et amicalement, peut-être une fois de plus, une confrontation entre l'histoire des historiens et la mémoire traditionnelle. Et donc nous devons nous recoder. 400 ans de temps culturel, c'est énorme. Le dernier des prophètes hébreux, c'est Malachi. C'est au temps d'Ezra, Néhémie, le Beth Amidrash de Mordechai, la reine Esther, le temps de la première diaspora chez les Perses. C'est là que la tradition judéenne clôt le temps de la prophétie hébraïque. Lorsque le christianisme apparaît, il était nécessaire de combler ce temps culturel par des livres que, comme vous le savez, nous appelons en hébreu les Sfarim Achitsonim, et en français les livres apocryphes. C'était très important pour la tradition catholique. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est présentée dans l'histoire comme héritière authentique de la Bible hébraïque contre le judaïsme. Les protestants ont une autre théologie sur ce point. Les protestants se considèrent comme l'Église des nations et non pas comme un autre Israël. Le terme d'Israël dans la liturgie protestante est un terme religieux, alors que dans la liturgie catholique, il est une contestation de filiation par rapport aux Hébreux. C'est pourquoi j'insiste sur cette période de temps de 400 ans entre la fin du temps hébraïque et le commencement simultané du judaïsme de la dispersion, les Juifs, lorsque l'Empire romain a détruit la Judée du deuxième temple et le christianisme naissant. Je vais vous raconter une anecdote qui peut-être illustrera ce propos. Et ensuite je reviendrai au problème de la question que j'ai posée. Pourquoi la tradition juive ne possède pas, et j'essaierai de l'expliquer, de textes écrits concernant l'histoire des Maccabées et de Hanouka. Un jour, je parlais de ces problèmes avec un théologien catholique et je lui ai posé la question suivante. Le livre des pensées de Pascal est un livre de piété chrétienne, catholique, très important. Est-ce que vous auriez l'idée de l'adjoindre aux évangiles ? Il m'a répondu, absolument pas. Et pourtant, c'est un livre de piété. Alors je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle nous ne considérons pas les livres apocryphes comme étant des livres révélés. Ce sont des livres de piété, de la piété juive populaire. Vous avez, par un autre biais, fait allusion à ce que j'appellerais le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de l'Ecclésiastique, et aussi le livre des Maccabées. Il y a une différence de nature entre les livres des prophètes et les livres inspirés de l'époque hébraïque, et d'autre part, des livres de piété, fût-ce le livre des Maccabées, qui sont des livres de la culture juive ou de la culture judéenne. Donc, le fait que nous n'ayons pas dans le canon biblique hébraïque un livre traitant de l'histoire des Maccabées ne fait pas mystère. Cette époque est postérieure à la fermeture du canon biblique des Hébreux. La question est plus importante concernant la littérature talmudique. Comment se fait-il que nous n'ayons pas de traité du Talmud qui traite du livre des Maccabées ? Et là, je voudrais donner deux réponses. La tradition pharisienne, opposée à le très exact exposé que vous avez fait de l'histoire de la dynastie sadducéenne, qui n'était pas du tout pharisienne, et a eu, au moment de la victoire des Maccabées contre les Grecs, plus exactement les Gréco-Syriens, tel que vous l'avez précisé, une réaction très positive par rapport à la dynastie des Maccabées. Je reviendrai sur les motivations de la révolte des Maccabées, et très positive parce que la souveraineté nationale judéenne, c'est-à-dire hébraïque, avait été restauré, non pas pour des motifs politiques, mais parce que, comme vous l'avez indiqué aussi, nous étions arrivés à un temps où l'identité hébraïque, l'identité judéenne, était mise en question dans l'Empire grec, tel qu'il se trouvait à cette époque chez les successeurs d'Alexandre. la motivation de la révolte a été spirituelle, mais elle a eu pour objet une restauration nationale. Et au début de cette période, la réaction de la tradition des rabbins du Talmud a été positive. Et c'est pourquoi ils ont fixé que la commémoration historique de la fête des Lumières à Hanouka, le 25 Kislev, à partir de cette époque, commémorerait cet événement. Je vous donnerai une analogie. Pessah, c'est le 14 Nissan. D'après nos traditions, le 14 Nissan, qui est la fête du printemps, c'est le temps de Pessah depuis le début de l'histoire du monde, de l'histoire du monde naturel, de l'histoire du monde historique, depuis le temps du premier homme, dans la cohérence du récit biblique. Mais nous avons attendu la sortie d'Égypte pour désigner l'événement historique qui serait commémoré à Pessah. De même, les Maccabées ont attendu la victoire des Judéens contre les Grecs à Jérusalem pour fixer l'événement historique qui commémorerait la fête de Hanouka. Cela signifie qu'à cette époque, il s'est passé un événement important. Vous avez très exactement désigné le danger de l'hellénisation des Judéens à cette époque. Il est évident que si l'identité judéenne était le dernier bastion de résistance hébraïque à la culture de l'époque avait disparu, l'identité juive postérieure n'aurait peut-être pas eu l'histoire qu'elle a eue. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez aussi signalé, bien que dans notre histoire très longue et très complexe, il y a eu énormément de péripéties militaires, politiques, victoires, restauration nationale, c'est quand même cet événement-là qui va fixer l'illustration de la fête de Hanouka, parce qu'à cette époque, la culture extérieure, la culture hellénistique, était effectivement celle qui risquait d'assimiler complètement cette tendance universaliste des Juifs à l'humanisme contemporain. Il y a eu là un événement historique marqué par la tradition d'une importance grande. Et donc, au début de l'histoire des Maccabées, la tradition pharisienne a eu une réaction positive. Lorsque nous commémorons l'événement de Hanouka, nous nous référons à cette victoire des Maccabées contre les Grecs. Mais, vous l'avez aussi signalé, la suite de l'histoire de cette dynastie a abouti à un échec. Il y a deux éléments que la tradition signale que je voudrais mettre en évidence. Le premier, c'est que la Torah interdit la confusion des pouvoirs. Entre le pouvoir sacerdotal et le pouvoir politique, il doit y avoir séparation. Or, les Asmonéens, qui ont donné lieu à la dynastie des Maccabées, étaient descendants des Kohanim. C'étaient des prêtres. La raison pour laquelle ce sont des familles de Kohanim qui ont pris la tête de la résistance, de la révolte, nous montre que cette époque était celle d'une assimilation considérable. Les Judéens s'hellénisaient. Seuls, une poignée, disons, de lévites, de Kohanim, c'est-à-dire d'hommes qui, au fond, auraient supporté toute occupation étrangère, toute dénaturation de style de civilisation contemporaine, ponctuellement, ont diagnostiqué le fait que l'identité judéenne et donc l'identité hébraïque étaient en danger. Et donc des lévites, nous dirions aujourd'hui des rabbins, je ne sais pas moi, des bachorei yeshiva, ont pris la tête d'un maquis de résistance contre l'occupant, et ce n'étaient pas des nationalistes, c'était des juifs de la tradition. C'est qu'ils ont diagnostiqué que l'identité judéenne était en danger. Vous avez, à votre manière, très bien décrit, au fond, la situation de l'assimilation dans la génération précédente de notre temps. Nous étions tellement fascinés par l'humanisme occidental contemporain que nous avons fini par nous helléniser à la manière des hellénisants il y a 2400 ans. La résistance n'est pas venue des milieux religieux, elle est venue des milieux nationaux, mais par une motivation d'identité. Et c'est, toute proportion gardée, quels que soient les différents destins, ce qui s'est passé au temps des Maccabées. Mais à cette époque, ce sont des rabbins qui ont fondé le mouvement nationaliste. Parce que le risque d'assimilation était arrivé déjà au niveau spirituel. Et donc, au début de cette période, la réaction de la tradition judéenne a été positive. Mais finalement, comme je viens de le signaler, les Asmonéens ayant fondé une théocratie sadducéenne, la tradition talmudique finalement s'est détachée de ce qui est arrivé au temps de Jason, de Ménélas, jusqu'à l'arrivée des Romains. Ça, c'est la première raison. Dans un cas d'urgence, les Maccabées pouvaient prendre le pouvoir civil, mais ils devaient immédiatement le rendre aux autorités civiles et revenir à leurs prérogatives sacerdotales. Ils ont fondé une théocratie, ou peut-être, comme vous avez dit, une théocratie, et c'est pourquoi la tradition juive parisienne a diagnostiqué un échec historique. C'est la première explication de la réticence du Talmud à parler de l'histoire des Maccabées. On pouvait s'attendre donc à ce qu'il y ait dans le Talmud un traité de Hanouka comme il y a un traité de Megillah. Il n'en est rien, parce que c'est finalement politiquement un échec. Et donc le Talmud va, d'une certaine manière, dire sa réticence vis-à-vis de ce genre de tentative. C'est la première raison. La deuxième raison est peut-être plus profonde, plus cachée. C'est que les Maccabées ont, par la suite, violé une deuxième règle de la Torah. Il est interdit de convertir des communautés, des populations, des peuples en tant qu'entité collective au judaïsme. Or, c'est ce qu'ont fait les Maccabées. Ils ont converti les Idumères au judaïsme. Et c'est du milieu des Idumères, des descendants de Esaü, convertis au judaïsme, que va naître le christianisme. Ce n'est pas par hasard qu'à l'apparition du christianisme, la dynastie régnante en Judée était celle d'Hérode, qui était d'une famille des Idumères. Voilà très brièvement indiqué la raison pour laquelle il n'y a pas de texte écrit dans la tradition juive concernant cette histoire. Les livres des Maccabées que vous avez cités, le premier, le second, il y a d'ailleurs un troisième.
Il n'y a rien à voir avec cette histoire.
Vous avez raison. Et sont des livres, si vous voulez, de la piété.
Même un quatrième.
C'est possible.
C'est
mais pas en araméen, en grec. Et dont nous n'avons pas de traduction en araméen. Des livres de la piété populaire, du folklore des judéens de l'époque. Et Dieu sait que la culture juive judéenne est riche. Essayez de rassembler ce qui paraît en un mois en français sur le judaïsme. Est-ce qu'on va intégrer ça au canon biblique ou au canon talmudique? Et c'est donc extérieur à ce que j'appellerais dans ce propos ce qu'a été la résistance de la mémoire traditionnelle judéenne hébraïque à la civilisation ambiante de ce temps. Mais il y a un autre point important. Dans les pages du Talmud que vous avez citées, la Gemara de Shabbat, effectivement, ça commence à la page 21, mais la citation essentielle est à la page 23. Rectifiez quand même, mais lisez jusqu'à la page 23.
D'accord.
Et on ne parle des lumières de Hanouka qu'en passant à propos des lumières du Shabbat. C'est la raison pour laquelle on parle de Hanouka dans le traité du Shabbat. Et là, la Gemara, le Talmud, pose la question suivante. Et l'événement a été irréversible. À partir du temps des Maccabées, lorsque nous allumons les lumières, le 25 Kislev, à la fête des Lumières, le jour du solstice d'hiver dans le calendrier hébraïque, quel événement devons-nous commémorer? La réponse est très claire. La victoire des Maccabées contre les Grecs, bien que la dynastie des Maccabées a finalement échoué parce qu'elle est devenue sadducéenne, parce qu'elle a appelé, après la civilisation grecque, la civilisation romaine et qui a occupé la Judée, un peu, si vous voulez, dans le diagnostic de ce que serait mutandis, je ne sais plus comment on dit en latin, le temps contemporain. Imaginons que l'Israël contemporain fasse appel pour résoudre ses problèmes soit à la Russie, soit à l'Amérique. C'est un peu ce qu'ont fait les Maccabées. Ils ont appelé la puissance romaine pour trancher entre, dans leurs problèmes intérieurs, d'abord, entre judéens, juifs et idumens convertis au judaïsme Et puis, leur problème avec les nations avoisinantes, les nations voisines, à la puissance étrangère du temps. Et la Guémara donc pose la question, que devons-nous dire comme bénédiction lorsque nous allumons les lumières de la Hanouka pour commémorer cet événement qui à l'origine a été important? Elle répond tout simplement, en citant la bénédiction habituelle, Asher Kideshanu Bemizota Vetsivanu Lehatlik Ner Shel Hanouka, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les lumières de la Hanouka. C'est important de signaler cela. Bien que l'histoire des Maccabées ait échoué, nous commémorons l'allumage des lumières de Hanouka en référence à l'événement de la réussite à l'origine. Donc la Gemara le signale. Et voilà qu'elle pose une deuxième question. Mais où dans la Torah est-il indiqué qu'il faut allumer les lumières de Hanouka? C'est-à-dire que là nous avons un problème très vaste. Quelle est l'autorité de la tradition orale? Et voilà que le Talmud pose cette question en référence au temps des Maccabées, alors que depuis le temps de la sortie d'Égypte, la loi de Moïse, il y a eu énormément de dispositions de la tradition orale, et qu'on n'a jamais posé la question, ni au temps de la Megillah d'Esther, ou dans la Torah est-il indiqué qu'il faille fêter la fête de Pourim, ni au temps du Beit HaMidrash de David HaMelech, de Shlomo HaMelech. Toutes les dispositions qui ont été prises par la tradition historique du judaïsme, on n'en parle pas. Dès qu'il s'agit des Maccabées, on pose la question. D'où savons-nous qu'il faut allumer les lumières de Hanouka comme une disposition religieuse qui a son autorité depuis la loi de Moïse? La question est importante. La réponse aussi est importante. On nous cite deux versets. Deux versets qui se trouvent dans le Deutéronome. Le premier, qui institue l'autorité des tribunaux de chaque temps. C'est au chapitre 17 du livre de Devarim. La Torah écrite prévoit qu'à chaque temps, les responsables de l'histoire des Juifs, héritiers des Hébreux, auront à diagnostiquer le sens des événements afin de dire par où passe la tradition. C'est le premier verset. Et le deuxième verset se trouve dans le chapitre 32 du Deutéronome. Et c'est surtout de celui-là dont je voudrais vous parler avant de vous donner la parole pour vos questions. C'est un verset qui dit « She'alna le'yamim re'shonim et binu shnod dor vador she'al abicha ve'yomar lecha zekenecha ve'yagidulach. Interroge ton père et il t'expliquera, tes anciens et ils te diront. » Et je crois que là est l'essentiel. Tant que les Grecs ont décidé de traduire la Bible en grec, de mettre la Bible traduite en grec dans la bibliothèque de l'humanisme de leur temps, tant que les Judéens et les Nisans avaient accepté d'être une parmi les cultures du temps, une culture mise par écrit, traduite dans la langue culturelle du temps, les Grecs, bien entendu, auraient intégré à leur humanisme universel une culture judéenne assimilée. Et donc, la Bible traduite en grec, une religion juive devenue confession israélite de l'humanisme contemporain, était habilitée par les Grecs. Et il ne s'agissait pas de massacrer les Juifs, comme au temps, par exemple, de l'Empire perse. Mais l'identité judéenne, l'identité nationale, la relation de mémoire au père, au grand-père, jusqu'aux Hébreux, cela était insupportable pour la culture du temps. Et je crois que nous vivons, nous sortons d'une époque assez analogue. Et je vous ai parlé tout à l'heure du consistoire des Israélites de France. C'est ça dont je voudrais vous parler. Quand l'Empire français a donné la possibilité aux Juifs de se situer dans l'identité française européenne, de la culture contemporaine, comme confession religieuse israélite, rangée à côté de la confession religieuse protestante catholique, eh bien c'est exactement ce qu'ont fait les Grecs en Judée. Mais à condition que la filiation nationale, qui passe par la famille, par l'identité du père et du grand-père jusqu'aux Hébreux, soit mise entre parenthèses. Traduisez votre Bible en grec. Traduisez-la en hébreu. Oubliez que la Bible parle d'Israël. Rangez-vous comme une des cultures judéennes dans l'humanisme du temps, vous vivrez. Mais si vous décidez d'être vous-même les judéens, les hébreux, alors on interdira d'étudier la Torah. On interdira la circoncision. On interdira le Shabbat. Par des voies violentes, par des voies d'assimilation douce, et c'est la même histoire. Et c'est pourquoi la tradition juive a décidé que jamais l'histoire des Maccabées ne sera mise par écrit. Si on en fait un livre, ce serait le signe que les Grecs ont vaincu les Hébreux. Tant que ça reste dans la mémoire orale, nous sommes encore vivants. Ce que je voulais dire.
Je crois que la discussion entre tradition et histoire n'est pas très facile, parce que si vous pensez que les livres de Daniel, Ezra et Néhémie ont été écrits après la chute du premier temple, alors je ne vois pas très bien comment on peut discuter sur cette affaire. Pour moi, le canon ne concerne évidemment pas la Torah et les prophètes. J'ai bien précisé au début de ma conférence qu'il y aurait peut-être une petite place pour les Maccabées dans les Ketuvim. Et je pense au canon établi par l'autorité rabbinique vers 90 à Tiferia, et non pas un canon fermé à la chute du premier temple. Nous ne sommes pas d'accord ni sur la chronologie, ni sur la terminologie. Je laisse de côté la terminologie concernant la succession des Hébreux, Judéens et Juifs, qui me paraît assez dangereuse. Et c'est une segmentation de l'histoire juive qui aboutit par exemple à dire qu'en fait il n'y a pas d'antisémitisme et une suite d'attitudes hostiles d'abord aux Hébreux, puis aux Judéens, puis aux Juifs. Et ça c'est un problème secondaire. Vous avez dit trois fois victoire des Maccabées contre les Grecs. Je me suis appliqué pendant une heure à expliquer que du point de vue historique ce n'est pas une victoire contre les Grecs, parce que les Grecs n'ont jamais pensé, n'ont jamais cherché à convertir les Juifs à quoi que ce soit. C'étaient les grands prêtres hellénistes qui voulaient réformer une religion qui leur paraissait périmée et rétrograde. C'est une victoire contre un danger qui était né au sein du judaïsme lui-même. Et ça explique très bien ce silence dans lequel on a plongé le livret juif de Maccabée, parce que c'est bien un livret juif qui a été écarté, parce qu'il n'y avait pas de quoi être fier, ni de ces grands prêtres, ni de ces vainqueurs qui ont évolué pour devenir des princes grecs. Là, nous sommes tout à fait d'accord sur la conclusion. Alors, sur les silences, je suis parfaitement d'accord. Mais il y a encore quelques petites dissonances entre nous qui viennent peut-être du fait que nous ne nous plaçons pas exactement sur la même longueur d'onde.
Et je crois que ces dissonances sont plus nombreuses encore. Mais je veux dire, nous avons deux discours parallèles, et il est important que les deux discours soient entendus.
D'accord, je suis tout à fait d'accord. Alors peut-être que la discussion nous aidera. Peut-être que le débat qui pourrait se déclencher, si les personnes qui sont... Comment ? Si les présents ont des questions à poser ou des remarques à faire, ça nous aidera peut-être à concorder nos points de vue.
Je vous donne immédiatement la parole, vous me permettez trois mots de vocabulaire. Nous avons employé trois termes, hébreu, judéen, juif. Je voudrais très rapidement m'expliquer sur ce point. Et la Judée, c'était le royaume du sud, après le schisme du temps du roi Salomon, qui a pris le nom de Judée parce que la tribu de Juda était la dominante du royaume du sud.
Ça, tout le monde le sait.
Oui, je le rappelle pour des questions de vocabulaire. Et il y avait en réalité la tribu de Juda, la tribu de Benjamin et la moitié de la tribu de Manassé, qui avait pour capitale Jérusalem. Or, ce royaume s'est appelé Juda, encore une fois, parce que l'identité des judaïtes, membres de la tribu de Juda, est devenue dominante dans le royaume de Judée, et il s'agit des judéens. Les juifs, c'est tout à fait autre chose. Après le temps des Romains, le mot de judéen est devenu en français le mot de juif. Et ceux qui connaissent encore des langues comme l'espagnol ou l'italien, en Italie on disait hébreos, mais en espagnol on dit encore judéen. Et savent que Le mot de juif en français ne signifie pas autre chose que judéen de l'exil. Et ça renvoie à une identité nationale avant de renvoyer à une identité religieuse. Ceci pour dire qu'il y a eu un affrontement à la fois culturel entre les Hébreux, les derniers des Hébreux étant les Judéens, les Grecs au niveau de la civilisation du temps, que les soldats de l'armée grecque étaient des Syriens, ça ne change rien au fait que la victoire des Maccabées était la victoire contre la culture grecque, fût-ce armée gréco-syrienne interposée. Et les Juifs sont les Judéens de l'exil après le temps de Rome. Il y a dans notre histoire trois époques. Il est important de les situer. Et d'abord l'époque hébraïque, ensuite l'époque juive, et de nouveau de notre temps une époque hébraïque qui revit dans un style différent des péripéties analogues. Et c'est pourquoi je vous remercie très profondément d'avoir su, dans votre langage, dans votre registre, raconter notre histoire contemporaine.
Moi, je t'aimerais poser une question avant de prendre la discussion dans la salle. C'est de définir le postulat. Le postulat de Christ.
Peut-être voulez-vous prendre le micro ou parler tout simplement un peu plus fort. La salle n'est pas si grande, donc on doit pouvoir s'entendre.
Je disais qu'avant que le débat soit lancé vers la salle, personnellement, je serais intéressé à laisser la parole à Manitou.
Moi je dirais que
Je pense que sont révélatrices. C'est-à-dire qu'il s'agit de quelle manière, si vous voulez, ça pose très précisément les questions d'apportement du sadducéisme et du pharisaïsme. Et dans cette lumière-là, je désirais que vous, en tant qu'historien et Manitou, en tant que théologien, porteur de la tradition, quelqu'un de la part de la tradition juive, précise le postulat d'une approche et l'autre. Le postulat d'historien, quel est?
Très bien.
Il ne peut pas y avoir de contradiction permanente et profonde entre histoire et tradition. Ce n'est pas possible. Il y a une histoire du peuple juif qui est tantôt transmise par la tradition et tantôt recherchée et expliquée par les historiens. Il peut y avoir des divergences sur les approches, il ne peut pas y avoir une divergence fondamentale. Nous pouvons discuter sur la datation des livres qui composent le Tanakh, mais nous ne pouvons pas récuser l'existence même de ces livres. Il n'y a pas de postulat. Il n'y a pas de postulat. J'essayais d'expliquer une histoire qui, pour moi, est une histoire tragique vécue par un judaïsme qui a voulu s'ouvrir au monde moderne. Elle me paraît très moderne. Elle me paraît une histoire d'actualité, un terme d'actualité. Et j'essayais d'expliquer que l'image d'un roi païen qui cherche à convertir les juifs au paganisme est absolument ridicule. Et il faut évacuer cette image parce qu'elle ne correspond rigoureusement à rien. Aucun roi grec, et en particulier Antiochos IV Épiphane, épicurien, philosophe, n'a jamais cherché à convertir les juifs à quoi que ce soit. Le danger du paganisme, c'est que le paganisme, dans des moments de conflit, était prêt à exterminer le peuple juif tout entier, peuple et religion. Mais les païens n'ont jamais pensé à convertir qui que ce soit les juifs ou tout autre peuple. Les païens n'ont jamais prétendu apporter l'accomplissement de la promesse donnée à Abraham ou superposer un super prophète messager des dieux au prophète d'Israël. Alors, nous projetons dans l'Antiquité païenne des images auxquelles nous nous sommes habitués, auxquelles l'histoire juive nous a habitués dans le monde chrétien et musulman. C'est un anachronisme et c'est une façon de voir qui déforme. Voilà.
Et si vous me permettez avant de donner la parole, et je continue à dire que vous dites très exactement ce que vous avez à dire dans votre propre discours. Et je pense plus exactement à la période d'assimilation qui a débuté avec l'humanisme européen, par exemple, après l'émancipation. Il ne s'agissait pas du tout de convertir les juifs à une quelconque religion autre. Il s'agissait d'en faire des citoyens d'Occident de confession religieuse israélite. C'est un processus d'hellénisation dans un autre style.
Absolument.
Oui. Là, je crois que nous pouvons
nous
accorder. Et que le diagnostic porté par les Maccabées était que l'identité nationale hébraïque, telle qu'elle était en ce temps-là préservée dans l'identité judéenne, était en danger. Lire la Bible en grec ou en français, ça peut encore donner le temps de faire partie d'une confession religieuse israélite. Mais ne plus la lire en hébreu, alors l'identité hébraïque finalement se perd à travers les générations, devient autre. Et nous aurions eu affaire, ce qui est peut-être devenu le cas du christianisme à sa manière, à une religion originaire d'Israël, de l'Israël hébreu, mais ayant changé de véhicule culturel et spirituel, ayant changé de véhicule hébraïque, araméen, pour un véhicule gréco-latin, et c'est là que les Maccabées sont intervenus dans un diagnostic hébreu. C'est pourquoi je voudrais, non, vraiment pas assez de temps pour expliquer toutes les implications de ce que nous disons les uns et les autres. C'est pourquoi j'ai voulu très directement essayer d'identifier ces événements dans le style de votre explication avec le temps contemporain. Vous me permettrez de raconter une anecdote folklorique. Ça se passe en Algérie à la génération précédente. Imaginez, c'est arrivé d'ailleurs à un de mes oncles, un de mes grands-oncles, et un juif qui devait aller voir l'oculiste va dans la ville et est reçu par l'oculiste européen, je ne vais pas dire de culture hellénistique, mais de culture, disons, latine. À l'époque, les juifs d'Algérie commençaient un peu à parler le français. En réalité, leur langue était le judéo-arabe. Alors ce juif va chez l'oculiste et l'oculiste lui demande « Bon, vous, c'est quoi ? Myop ou presbyte ?» Ce juif s'est cru insulté. Il a répondu « Moi, monsieur, je suis un israélite français consistorial. » Et l'oculiste lui a répondu « J'ai compris, et myop et presbyte. » C'est exactement le cas des judéens au temps des Grecs. Mais c'est le fond du problème. Une question d'identité. Et non pas d'exercice liturgique, religieux, de confession dans telle église ou dans telle synagogue. La révolte de Maccabée était bien contre l'identité grecque. C'était ou être judéen, c'est-à-dire hébreu, ou devenir hellénisant, c'est-à-dire finalement autre.
Voilà. Oui, c'est vrai, c'est un peu plus subtil, parce que ces gens-là, les gens dont j'ai parlé, et que les rabbins ont, à bonne raison, éliminés de la mémoire juive, étaient de parfaits monothéistes. Jason ou Menelas voyaient les choses globalement. Ils voulaient ouvrir le judaïsme, le réformer, tout entier. Et ils sont allés au bout de leur projet. Ils ont été conséquents. Ce qui s'est passé par la suite, et je le soulignais dans ma conclusion, c'était une séparation. Une séparation entre culture et religion qui a permis au judaïsme de l'époque du Second Temple de prospérer tout en gardant le contact avec la culture grecque du monde ambiant. Mais l'erreur tragique des gens comme Jason et Menelas, c'est qu'ils considéraient le judaïsme comme un tout dans lequel le religieux restait inséparable du politique. Ils ont voulu transformer Jérusalem en une cité grecque, une chose qui en soi peut-être n'aurait pas été fatale pour la pureté de la religion juive. Mais ils ont voulu aller plus loin. Ils ont voulu aller plus loin, là les choses sont beaucoup plus subtiles. Encore une fois, ce n'est pas une victoire contre les Grecs, mais contre une influence grecque qui acceptait d'une manière trop enthousiaste par les Juifs eux-mêmes devient suicidaire pour le judaïsme. Et à ce titre, toutes les comparaisons que je ne faisais que suggérer, que vous avez, mon cher président, développées pour notre public, me paraissent très instructives. C'est tout à fait éclairant.
Il y a là des analogies qui font qu'un sujet comme celui-ci est un sujet d'actualité, est un sujet de réflexion permanente.
Non, mais je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis amené à donner la réponse à la question que je pose.
C'est très bien quand on se répond soi-même. Ça vaut mieux que la réponse que vous attendez des autres.
C'est possible. Cependant, si vous voulez, quand je posais la question du postulat de votre observation, enfin, l'analyse que vous faites des événements que vous avez cités, est formée sur un postulat d'observation externe à l'événement que vous vivez. Voilà. Et je pense, si vous voulez, que dans la tradition juive, dans la voie abrahamique, celui d'arrachement à un milieu social, celui d'arrachement par la suite à soi-même, c'est-à-dire dans une dynamique, dans une. C'est-à-dire que, si vous voulez, je pense que cette question d'observation, donner une signification à l'événement historique, elle est intrinsèquement liée à quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus totalisant, de diagnostic d'un ensemble de significations de tout ce qui concerne.
C'est peut-être vrai ce que vous dites, c'est trop compliqué pour moi, mais j'ai le sentiment de m'être placé à l'intérieur de l'histoire juive, et non pas de l'avoir abordée de l'extérieur. La méthode que j'ai utilisée est une démarche historique. J'ai le malheur de ne pas être talmudiste, je suis historien, je reste fidèle à mon métier, à ma formation. C'est une façon qui me paraît absolument indispensable et qui est complémentaire de l'enseignement traditionnel, une façon de percevoir l'histoire du judaïsme qui nous protège du ridicule, là où la tradition n'est plus qu'image qui ne correspond pas à une réalité historique susceptible d'être constituée scientifiquement.
Vous savez, nous allons donner la parole à la salle.
Voilà, c'est ça.
Parce que simplement une phrase. Mon cher ami, notre dialogue est un peu faussé. Vous êtes encore juif de diaspora et je suis déjà israélien. Alors là, il y a déjà un dépassage.
Je raconte une histoire d'Eretz Israël aujourd'hui. Monsieur.
Je suis monsieur Raka. J'ai beaucoup de difficultés avec
J'ai beaucoup de difficultés avec la présentation du professeur Mélez, tout comme par Ashkenazi lui-même, et j'ai spécifiquement deux difficultés. La première a à voir avec une sorte de myopie qui semble inhérente à toute description. Et vous pourriez me pardonner.
Je suis myope et astigmate par des images. Alors vous ne pouvez pas voir la myopie, mais vous pouvez voir aussi des lignes qui sont pas très loin. Et voilà les lunettes.